France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La France qui redécouvre les rigueurs de l'hiver, neige en abondance sur la façade ouest, notamment en Vendée et Charente-Maritime. Nous y serons, circulation très délicate partout, 5 morts depuis ce matin sur les routes, des Landes jusqu'à l'Île-de-France. Emmanuel lui a passé la nuit dans son camion en Vendée.
Je me suis parqué juste avant que la neige arrive. Bon, on fait avec. Hein. Moi je suis de Vendée et c'est une fois tous les 10 ans qu'on a un épisode comme ça, mais celui-là il est quand même assez exceptionnel.
Et puis nous demanderons à Météo France dans les prochaines minutes si la situation n'a pas été un peu sous-évaluée, comme le suggère ce matin le gouvernement. À suivre encore le drame de Crans-Montana et cette révélation faite ce matin par le président de la commune suisse sur l'absence de contrôle du bar.
Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Nous le regrettons amèrement. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera.
Nous serons en Suisse dans un instant et à partir de 13h30, nous parlerons de la prise en charge des grands brûlés de cet incendie. Plusieurs sont soignés en France, notamment à Metz, par le docteur Glavnik. Il sera avec nous, ainsi que Julia Bourges, elle-même brûlée à 40% il y a 10 ans et qui depuis témoigne. 01 45 24 7000 pour vos questions. Nous verrons aussi qu'au Venezuela, pour l'instant, l'opposition à Nicolas Maduro est mise de côté par les Américains. Nous parlerons de ce bébé à Avignon, cible d'une campagne d'insultes racistes en ligne, car il se prénomme Zaïd. 13h50, c'est la France. Le match des communes sur les réseaux sociaux la plus performante est dans le Maine-et-Loire, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'écrivaine Vanessa Springora demande Nirvana.
Moi je crois que j'ai pas été si sensible que ça à ce morceau à l'époque où il est sorti, même si c'était impossible de pas l'entendre puisqu'il était partout, c'était le tube de ma jeunesse. Et en fait, c'est un morceau que j'ai redécouvert grâce à Patti Smith.
Et ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Des plages sous la neige, des plages de l'Atlantique toutes blanches. C'est l'image de la matinée à Châtelaillon, à Foura ou encore à Saint-Nazaire. La neige y est tombée en force ces dernières heures et elle tient avant d'en venir à des conséquences plus dramatiques de cet épisode avec ces accidents en série ce matin. Arrêtons-nous dans l'une des grandes villes de la façade ouest, La Rochelle, qui s'est réveillée ce matin avec 20 voire 30 cm de neige par endroit, à tel point que le maire demande aux habitants de rester chez eux. Suivons notre journaliste Julien Fleury.
Le soleil se lève sur la plage de la Concurrence, recouverte de neige, paysage irréel. Fabienne et Christine sont deux amies, elles ne pouvaient pas manquer le spectacle.
C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ça.
Il fallait venir.
Il fallait venir, ah bah oui.
Il fallait se lever tôt. Avec le lever du soleil, en plus, c'est magnifique.
Et voilà que Luca s'engage sur la promenade en bord de mer. Le lycéen est à ski de fond.
À vélo, c'était pas praticable, à pied, ça allait être long. Donc à ski, c'est plus pratique.
Donc vous êtes très rapide là.
Ah bah là, comme une flèche.
Vous aimez bien le ski de fond comme ça?
Ah j'adore.
Mais le pratiquer à La Rochelle?
Ah c'est exceptionnel, première fois. C'est super, il y a des bonnes pistes, la neige est bonne, donc ça glisse bien, c'est cool. Ah c'est fou, avec la mer à côté, là c'est super.
Aucune voiture en ville, mais sur le vieux port, les promeneurs sont nombreux, appareil photo en bandoulière comme Benoît.
Là il y a une vue magnifique avec la glace et la neige sur les mâles et au banc, les tours de La Rochelle derrière. C'est fabuleux comme image là. Ça fait 4 ans qu'on est à La Rochelle, c'est la première fois qu'on voit de la neige, donc il faut en profiter.
Et ceux qui en profitent, ce sont les plus jeunes. Bataille de boules de neige au programme toute la matinée.
Ouais, c'est génial. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et à un niveau pareil, franchement, c'est ultra agréable.
Ce matin, on avait crié partout parce qu'on avait vu de la neige et tout. C'était trop bien. C'est incroyable.
Un reportage ici, La Rochelle. Situation exceptionnelle également un peu plus au nord, en Vendée. Pour reprendre le mot du préfet du département, 11 accidents matériels depuis ce matin. 15 véhicules impliqués, 24 personnes à secourir. Car au-delà de ces images de cartes postales, il y a aussi les désagréments, voire les drames charriés par cette météo. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
De très nombreux accidents depuis ce matin, des Landes jusqu'à la région parisienne, plusieurs mortels.
À hauteur de Saint-Jour-de-Maraisme sur l'autoroute A63 par exemple, un peu après 7h du matin, collision entre deux autocars Flixbus à cause du verglas et pas de la neige. Bilan, 2 morts, une 50aine de passagers à mettre à l'abri dans la salle des fêtes de la commune. Tout près, sur une départementale à Magesque, dans les Landes, là encore, un chauffeur de poids lourd allait aider un autre conducteur de camion en portefeuille quand il a été mortellement fauché par une voiture qui a glissé. 2 autres personnes ont perdu la vie en région parisienne. Un chauffeur de VTC cette nuit, dont la voiture a glissé, basculé dans la Marne, au Perreux, et puis un conducteur de fourgon percuté par un poids lourd près de Melun.
Globalement, l'état des routes est très mauvais.
Et oui, à cause de cet épisode vraiment spectaculaire sur la façade atlantique, que vous avez évoqué, la Charente-Maritime, mais beaucoup de neige en Loire-Atlantique et en Vendée, donc aussi la gelée par-dessus. Vous imaginez bien que la circulation est très coton. Réseau de bus à l'arrêt, par exemple à Nantes. Celui des trams va reprendre. Pas de bac, pour traverser la Loire ce matin. Circulation des trains régionaux dégradée. Certains trajets interrompus entre la Loire-Atlantique et la Bretagne. En région parisienne, 1/3 des bus de la RATP ont repris du service. Ils étaient totalement à l'arrêt hier soir, alors que les routes d'Île-de-France, qui étaient très encombrées hier soir, ont été bien dégagées. Globalement, 1% du réseau routier structurant connaît encore des difficultés en France, selon le ministère des Transports. 5 aéroports sont fermés en France. Nantes, La Rochelle, Saint-Nazaire, Vatry dans la Marne et puis celui de la Somme. Enfin, plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité. Plus de 10 000 dans l'Ouest à 11h tout à l'heure, c'est probablement moins à présent.
Merci Béatrice Duguay. Vous nous parliez, Béatrice, des difficultés de circulation. Il y a aussi un autre phénomène auquel on assiste dans toutes les villes qui disposent des pistes cyclables. Quand il neige, c'est là disparition quasi totale des cyclistes, car les pistes pour vélos sont peu ou pas déneigées. Sarah Mansoura, vous l'avez constaté ce matin à Paris.
Oui, la piste cyclable est toute blanche, extrêmement dérapante. Je dois dire que ça fait assez peur quand on doit s'engager sur une descente. Ça glisse beaucoup. Hugo, justement, vient de descendre, tout frigorifié. Il a préféré rouler sur la route.
J'avais un peu peur ce matin, je savais pas si j'allais pouvoir me déplacer parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables qui sont salées. Enfin, les routes sont plus dégagées.
Elle aussi vient tout juste d'arriver au travail. Hélène se tient à côté d'une station de vélo enneigée. Aucun ne semble avoir été utilisé dans les dernières heures. Elle non plus n'a pas voulu tenter sa chance.
De Montreuil jusqu'au 16e, c'était vraiment pas possible parce qu'à Montreuil, de la même façon, les pistes cyclables étaient pleines de neige. C'est le verglas qui est en dessous de la neige, donc j'ai vu quelques vélos, beaucoup moins que d'habitude.
On voit effectivement que sur les grands axes, il y a beaucoup moins de cyclistes qu'à l'accoutumée, beaucoup moins de conducteurs de trottinettes, par exemple. Pour les rares qui se lancent quand même à bicyclette, il faut adapter ses comportements. Amenaï est en train d'enlever un peu de neige des roues de son vélo cargo.
Je fais pas de vitesse pour éviter toutes sortes d'accidents, pour éviter de tomber. Ouais, c'est compliqué. Ouais.
Réduire sa vitesse comme Philippe qui roule tout doucement.
Faut rouler un peu moins vite que d'habitude et être prudent quoi. Et pas freiner trop dur. Ça dérape.
Ça dérape effectivement et à ce verglas pourrait s'ajouter très prochainement de nouvelles chutes de neige.
Sarah Mansoura dans les rues de Paris. Plusieurs communes de France nous confirment tout de même avoir procédé dès hier au déneigement, au salage des pistes cyclables les plus empruntées. Paris donc, même si ça ne saute pas aux yeux, Lille ou encore Strasbourg où pour l'instant il n'a pas neigé. Bonjour François Gourand.
Bonjour.
Vous êtes prévisionniste François Gourand à Météo France. Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Je le disais dans les titres, Philippe Tabarot ce matin, le ministre des Transports, dit que l'événement neigeux a été un peu sous-évalué. Vous êtes trompé ?
Alors, globalement, les cumuls observés ont été dans les valeurs s'avérées les plus hautes des prévisions, voire même au-dessus dans certaines zones localisées en région parisienne ou sur la côte atlantique. Il y a vraiment effectivement 2 zones, notamment la Charente-Maritime dont vous avez parlé et un peu en région parisienne, où il est tombé un peu plus de neige que ce qu'on avait prévu.
Donc vous pensiez que ça serait un peu moins fort. Qu'est-ce qui vous a manqué dans les prévisions ? Pourquoi est-ce que vous avez mis un peu en dessous ?
Alors, la prévision de neige, c'est un art, je dirais, difficile. Hein. On a des modélisations qui sont de plus en plus performantes, qui sont réévaluées en permanence, hein, plusieurs fois par jour, qui, en fait, au départ, indiquaient un épisode plus classique. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a augmenté hier, dans la journée de lundi, les quantités prévues, mais malgré tout, pas au niveau de celles qui ont été atteintes, hein, parce que les modélisations, bah, elles reflètent un état de l'atmosphère qui est changeant, qu'on arrive plus ou moins bien à anticiper. Et là, les conditions se sont dégradées petit à petit, au-delà de ce que la technique nous permettait d'anticiper. Mais malheureusement, avec les chutes de neige, entre la quantité qui tombe et surtout la manière dont elle tient ou pas sur les différentes surfaces au sol, c'est toujours un art quand même assez complexe.
Parce que ça se joue à quelques degrés ?
Alors, il peut y avoir l'histoire de la température, effectivement, hein, qui est notamment critique sur tout ce qui est réseau routier. Mais non, il y a aussi, par exemple, sur la Charente-Maritime, hein, probablement la dépression qui a occasionné cette neige qui circulait près de la côte atlantique, elle, sans doute circulait un tout petit peu plus lentement, en tout cas stationnait un peu plus longtemps sur ce département que ce qu'on pouvait penser. Et ça fait toute la différence avec pas mal de centimètres de neige en plus. Hein, donc, ça peut être ce genre de choses. Hein, mais la prévision de la neige reste un art délicat.
Il y a plus de départements en vigilance orange, neige-verglas.
Alors,
François Gourand.
À l'heure où je vous parle, on n'a que du jaune neige-verglas, mais la carte va évoluer.
D'accord, parce
très
que ça peut paraître un peu étonnant d'avoir aucun département orange quand on voit le spectacle, notamment dans un grand quart nord-ouest.
Alors effectivement, hein, le spectacle, le orange, si vous voulez, suite aux chutes de neige, on le garde quand on est dans le sillage du phénomène météo pour les phénomènes de regel qui ont effectivement eu lieu cette nuit. Donc à 10h ce matin, quand les températures ont commencé un peu à remonter, la situation s'est lentement améliorée. Hein. Pas complètement, puisqu'on est passé du orange au jaune, hein, on n'est pas passé en vert, hein, ce qui signifierait que le phénomène est terminé. Mais donc, on a repassé en jaune. Mais là, on va repasser effectivement en orange. Mais pour le phénomène qui arrive la nuit prochaine et demain matin notamment, enfin demain toute la journée, mais dès le matin, sur le nord du pays, avec un nouvel épisode neigeux.
Donc, nouvelle chute de neige sur le nord du pays dans les prochaines heures, à partir de la fin de soirée.
À partir de la nuit prochaine, sur les côtes, des côtes de la Manche, vraiment en cours de nuit, et puis fin de nuit, ça va vraiment progresser sur le nord du pays, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, centre, demain matin, en glissant ensuite un peu plus à l'est, hein, vers les massifs centrales, la Bourgogne, tout dans l'après-midi.
Autant donc que là, ces dernières heures.
Encore
il va neiger.
Alors oui, on attend des chutes de neige comparables à celles qu'on a observées hier, hein, souvent, c'est-à-dire des fourchettes générales de 3 à 7 cm assez généralisées, hein, sur ces régions-là. Peut-être même un peu plus près de la frontière belge, là où on pourrait aller jusqu'à 7 à 15 cm.
Merci François Gourand d'avoir été avec nous, prévisionniste à Météo France. J'ajoute conséquence de la météo, mais surtout de la grève des médecins libéraux, grève qui a débuté hier, une hausse de 30 à 50% d'appels au SAMU, service d'accès aux soins. La situation devient intenable, a dit il y a quelques minutes SAMU Urgence de France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Après l'incendie dans un bar de Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel An, ce sont désormais deux enquêtes qui sont ouvertes. L'une en Suisse évidemment, mais une autre aussi depuis hier en France pour permettre, dit le parquet de Paris, d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les Suisses. Et justement, sur les causes du sinistre, le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Ferraud, a donné des explications ce matin lors d'une conférence de presse. Il reconnaît l'absence de contrôle de l'établissement pendant 5 ans entre 2020 et 2025. En Suisse, Jérémy Lanche.
La séquence filmée par une cliente du bar lors du réveillon 2019-2020 et récoltée par la radio-télévision suisse est édifiante. On y voit les mêmes feux de Bengale agités en dessous de la même mousse isolante qui a pris feu lors du drame. Faites gaffe à la mousse, peut-on entendre. Le maire de Crans-Montana, Nicolas Ferraud, commente la vidéo.
Ça montre la négligence de l'exploitant dans la gestion de l'établissement. Et à l'évidence, ça montre aussi une culture du risque inconsidérée qui dépasse toute possibilité de contrôle.
Et c'est cette mousse qui a fait l'objet du dernier contrôle connu du bar, un contrôle acoustique uniquement à la demande des riverains qui se plaignaient du bruit.
En septembre 2025, un expert externe a été mandaté pour une analyse acoustique. Cet expert a conclu que le local respectait les normes anti-bruit et ne nous a fait part d'aucune remarque.
Le Constellation aurait dû être contrôlé périodiquement entre 2020 et 2025. Ça n'a pas été le cas, regrettent les autorités de Crans-Montana qui déplorent également le peu de moyens disponibles. Mais je ne me défausserai pas, dit le maire. Nous assumerons nos responsabilités. Ce drame, c'est un fardeau que je porterai toute ma vie. À Genève, Jérémy Lange, RFI pour France Inter.
Et on en reparle à 13h30. On parle des soins, cette fois, apportés aux grands brûlés de cet incendie. 01 45 24 7000 pour vos questions. On a pointé du doigt ces dernières semaines la responsabilité des plateformes chinoises dans la vente de poupées à caractère pédopornographique en France. Une vingtaine de personnes ont d'ailleurs été interpellées le mois dernier. Il y a eu des condamnations après des achats sur Chine ou encore AliExpress. Mais cette fois, l'association Move Enfants signale à la justice une société française. Elle s'appelle Love Doll. Elle est basée à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Elle est accusée de commercialiser des poupées sexuelles à l'effigie d'adolescentes. Sébastien Germain, que trouve-t-on sur ce site ?
À côté d'une poupée qui a l'air mineure, ce message. Adora est la femme parfaite. Cette poupée grandeur nature est jeune, douce et incroyablement sexy. En plus de ce descriptif, il y a la taille, le poids, le tour de poitrine de la poupée jusqu'à la profondeur des orifices. Manque l'âge, mais pour Arnaud Gallet, cofondateur de Move Enfant, pas de doute, c'est une adolescente.
La loi le dit très bien. Toute représentation sert tout ce qui peut représenter ou même avoir une ressemblance avec un enfant. Et là, on voit bien, des fois, certaines d'entre elles, certaines poupées ont des nounours, ont certaines choses qui font quand même écho plutôt à l'enfance. Représenter des adolescentes, c'est bien entendu complètement interdit.
L'association Move Enfant demande la fermeture de cette société valbonnaise et que les acheteurs soient très rapidement identifiés.
On se rend bien compte que le profil des acheteurs, ce sont des personnes qui potentiellement sont déjà passées à l'acte. Donc en fait, les pédocriminels s'entraînent sur ce type de poupée pour être en capacité par la suite de faire le crime parfait.
Alors nous avons tenté de joindre cette société, Love Doll, sans succès.
Bonjour.
Après ces révélations, l'association Move Enfant espère maintenant une action rapide des autorités.
Information signée ici Azur. À partir de quel âge peut-on être victime de racisme ? À Avignon, en fin de semaine dernière, nos confrères du journal La Provence ont consacré un article au premier bébé de l'année 2026 dans la commune d'Avignon. Bébé prénommé Zaïd, un prénom qui a suscité sur les réseaux sociaux plusieurs centaines de commentaires haineux et racistes, Dimitri Morgado.
Zaïd va brûler des voitures, toucher la CAF et violer ta grand-mère. C'est ce qu'écrit par exemple Charles Ignace de Frontignac sur X et ça donne clairement le ton de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Le jeune garçon Zaïd, après quelques heures seulement de vie, se faisait déjà insulter, je cite, de Newell par Rocksteady 1951, de terroriste en puissance pour Vincent Lille 59 ou encore de futur dealer d'après Oscar 68-68-6. Au total, des centaines de messages de ce type. La plupart des auteurs ont des pseudos et une photo de profil qui ne montre pas leur visage. Ils agissent masqués, mais ils font donc beaucoup de bruit. Au bout de deux jours et vu l'ampleur de cette vague de discrimination, nos confrères de La Provence ont décidé de fermer l'espace commentaire sous la publication Facebook. Les modérateurs ont également supprimé les commentaires racistes.
Les auteurs de ces messages risquent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende pour injure raciste, explication ici Vaucluse. C'est bien l'Ukraine qui est au menu des discussions de ce qu'on appelle la coalition des volontaires aujourd'hui à Paris. Autour d'Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer, l'allemand Friedrich Merz, le canadien McCarney, mais aussi deux émissaires américains Steve Witkoff, ou encore le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. L'Ukraine donc sur la table, mais le Venezuela dans toutes les têtes, tant la démonstration de force des Américains ce week-end a marqué les esprits. La capture de Nicolas Maduro, première étape. Quant à la deuxième étape, pour l'instant, le plan reste un peu flou. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
L'opposition vénézuélienne s'est frottée les mains. Samedi, elle déchante aujourd'hui.
Oui, elle est devenue spectatrice impuissante des événements. Hier, les deux figures principales se sont exprimées. La toute nouvelle prix Nobel de la paix a tenté de revenir dans le jeu en flattant Donald Trump sur Fox News, sa chaîne préférée, pendant que sur la télé espagnole, dans un message enregistré de Mondo González Urrutia, le vainqueur de la dernière présidentielle a limité les dégâts en demandant à l'ancien nouveau régime au Venezuela de libérer les prisonniers politiques.
La véritable normalisation du pays sera possible seulement quand tous les prisonniers politiques vénézuéliens seront libérés.
D'après la presse américaine, Donald Trump avait choisi d'écarter l'opposition avant de lancer son raid. Depuis, Edmundo Urrutia a été soutenu par l'Union européenne et par Emmanuel Macron.
Ça veut dire, Étienne, que pour l'instant, les Américains s'appuient sur le régime qui est en place ?
Les États-Unis ont la conviction que cette opposition n'a pas suffisamment de relais pour asseoir son pouvoir, qu'il faudrait, au fond, intervenir sur le terrain pour éviter une déstabilisation. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, défend donc une gestion à distance, par la menace, au profit de la nouvelle présidente, sans élection en ligne de mire, c'est ce qu'il dit sur NBC.
Tout cela, je pense que c'est prématuré. Soyons réalistes. On va donner à ces gens la possibilité de régler les problèmes qui nous préoccupent. En attendant, on maintiendra cet embargo sur le pétrole. Et cela, tant qu'ils n'auront pas répondu à nos demandes.
Et dans la liste des problèmes, la drogue et le pétrole en direction de Cuba et de la Chine. La nouvelle présidente vénézuélienne a fait preuve de souplesse dimanche dans ses déclarations vis-à-vis des Américains. Mais elle est entourée par deux hommes forts qui dirigent les ministères stratégiques de l'Intérieur et de la Défense.
Décryptage signé Étienne Monin après la capture de Nicolas Maduro samedi. Avant-hier, Donald Trump a ciblé de nouveaux pays. Il a parlé de la Colombie, de son président de gauche, il a parlé de Cuba. Il a aussi parlé du Groenland qui intéresse fortement et depuis des mois les États-Unis. Réaction commune des Européens il y a quelques minutes, c'est la première depuis ses propos il y a deux jours. Les dirigeants français, allemands, italiens, polonais, espagnols et britanniques signent une déclaration commune dans laquelle ils estiment qu'il revient au Danemark et au Groenland et à eux seuls de décider des questions qui les concernent. Fin de citation. Trouver un accord vendredi, puis signer le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud lundi prochain. Voilà le calendrier que prévoient les partisans en Europe de l'accord avec le Mercosur. Ils sont largement majoritaires désormais puisque seule la France, la Pologne et la Hongrie s'y opposent toujours fermement quand l'Italie hésite. En France, des dizaines d'agriculteurs de la coordination rurale tentent de rejoindre Paris en ce moment en tracteur pour bloquer la capitale et faire entendre leur opposition. Le convoi venu de Dordogne a passé la Loire dans la matinée malgré les arrêtés d'interdiction de circulation pris par plusieurs préfets de région. À Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, hier soir, ce sont des ostréiculteurs, une cinquantaine, qui ont brûlé des pneus et des palettes devant les locaux du journal Midi Libre. Ils lui reprochent le traitement médiatique de l'interdiction des huîtres et des moules de l'étang de Thau, c'était pendant les fêtes. C'est un devoir d'information et de santé publique, leur répond le directeur de la rédaction de Midi Libre. C'est l'une des villes du Sud-Est qui attise l'appétit du Rassemblement National à un peu plus de deux mois des élections municipales. Toulon, dans le Var, la députée RN Laure Lavalette s'y déclare officiellement candidate ce matin. Le parti qui est ambitieux dans les grandes villes, Lise Rosveil, avec une stratégie qui a été bien pensée pour l'occasion.
Marine Le Pen et Jordan Bardella ont donné le ton dans leurs vœux. 2026 sera une année de conquête. À Toulon, où le RN caracole en tête des sondages, mais aussi à Menton, Marseille ou Narbonne, et Perpignan, que le parti compte bien conserver. À chaque fois, le RN mise sur des personnalités identifiées et capées. Une cinquantaine de députés et eurodéputés se lancent dans les municipales. Ils sont encouragés à le faire. Même dans les villes qui ne sont pas gagnables, le parti a placé des parlementaires pour tenter de remporter des sièges dans les conseils municipaux. À Paris, Bordeaux ou Lille, par exemple. Et certains n'hésitent pas, comme Laure Lavalette, à jouer la carte du rassemblement pour aller chercher des électeurs de toute la droite, avec des candidatures sans étiquette soutenues par le RN. Pas de logo du parti sur les affiches, pas de photo de Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Officiellement, les cadres du RN refusent d'afficher un objectif de résultat, conscients que le parti est attendu au tournant. Mais après le revers de 2020, une dizaine de victoires seulement, le RN espère bien remporter cette fois plusieurs villes vitrines.
Lise Rosveil, Marine Le Pen dont vous parliez à l'instant, la députée Rassemblement National qui fait savoir qu'elle sera présente aux obsèques de Brigitte Bardot demain à Saint-Tropez. À l'Assemblée Nationale, la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel, voulue justement par l'extrême droite, reprend ses travaux cet après-midi en commençant par une réunion de bureau sous forme de mise au point de la part du président de cette commission. Il veut éviter les dérapages. On cause notamment les échanges musclés entre le rapporteur Charles Alloncle et les personnalités auditionnées. Un député Charles Alloncle qui a ciblé il y a quelques jours dans une interview l'animateur de France Inter et de France 2, Nagui. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Nagui qui lui répond sèchement dans une publication partagée hier sur Instagram.
Oui, et tout est parti de cette petite phrase.
Je pense, je vais parler au conditionnel, que Nagui est la personne sur les 10 dernières années en France s'est le plus enrichi sur l'argent public.
Le rapporteur Charles Alloncle, dans une interview fin décembre, Nagui lui répond donc dans un long texte « Pourquoi me jeter en pâture à la vindicte populaire ?» interroge l'animateur, aujourd'hui salarié du public à France Inter, donc pour la bande originale, et dans le privé, via Air Production, sa société ralliée à Baniger, l'un des plus gros groupes de production en France, et à qui France Télévisions commande des émissions comme Taratata ou N'oubliez pas les paroles. Il affirme notamment employer des centaines de personnes qui fournissent un travail exemplaire et qui, à moindre coût, rapportent de l'audience, donc, et de l'argent au service public. Il évoque les messages de haine reçus après cette interview du député et le menace de poursuite devant la justice. Nagui, qui est toujours sur la liste des potentiels auditionnés, France Télé externalisant pour une large majorité la fabrication de ses émissions, la question des producteurs reste un sujet majeur.
Xavier, je reviens rapidement sur la commission d'enquête, elle va reprendre ?
Oui, mais avec donc d'abord ce bureau sous forme de rappel à l'ordre, ouais. Tout à l'heure, 16h. Son président, le député Horizon, Jérémy Patrier-Lettus, va, selon les informations de France Inter, interdire aux élus présents les live tweets, extraits postés en direct sur Internet durant les auditions, faute de quoi il menace de suspendre ces auditions. Idem si des propos des uns et des autres sont, dit-il, instrumentalisés. À ce stade, aucune nouvelle convocation n'a été envoyée et aucune date de reprise n'a été fixée.
Xavier Demani, nous étions sur le littoral atlantique au début de ce 13-14. Retournons-y avec là encore des images étonnantes. Les promeneurs ces derniers jours sont légion à filmer des dauphins en train de sauter tout près du rivage. Il y en a aussi malheureusement qui s'échouent, pris aussi parfois dans les mailles de filet. Alors ça fait 3 ans maintenant que des chercheurs, notamment du CNRS et de l'Ifremer, se demandent pourquoi ces dauphins sont aussi nombreux en hiver près des côtes du golfe de Gascogne. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Jérôme.
Eh bien, c'est en partie lié au changement climatique.
Oui, l'augmentation de la température de l'eau en surface, 0,8 degrés en 20 ans, a eu des conséquences en cascade. Diminution du phytoplancton, de la taille des sardines, des anchois, déplacement des poissons, des dauphins vers les côtes. Les chercheurs ont analysé les estomacs des dauphins retrouvés sur les plages. En grande majorité, ils venaient tout juste de se nourrir. Jérôme Spitz est le directeur du laboratoire Pélagis à La Rochelle, spécialisé dans l'étude des cétacés.
Les conditions, on va dire, du golfe de Gascogne ont changé, avec notamment un réchauffement des eaux, ce qui a amené les petits poissons pélagiques. L'alimentation des dauphins a changé visiblement de distribution en se rapprochant à la côte, mais aussi probablement en faisant des bancs très denses au fond. C'est lorsque les dauphins communs vont s'alimenter sur ces bancs qui se feraient plus facilement capturer par les filets.
Et les zones de pêche se superposent de plus en plus aux zones de nourrissage des dauphins. Avec cette étude, il est désormais possible de dessiner une carte des risques de prise accidentelle. Ça peut permettre de savoir précisément où il serait bon d'interdire certaines pêches l'hiver.
Si on arrive à montrer que le risque il n'est pas égal dans l'ensemble du golfe de Gascogne, si on arrive à anticiper quelles sont les zones de risque les plus importantes, on pourrait avoir des mesures ou des fermetures plus ciblées dans le temps et dans l'espace.
Et cela permettrait de ne pas fermer la pêche dans tout le golfe de Gascogne pendant un mois, même si cette mesure a réduit de 60% les captures accidentelles de dauphins l'hiver dernier.
Merci Célia Kiré. La plus grande salle de concert couverte d'Europe, qui est aussi un stade, la Défense Arena à Nanterre, à l'ouest de Paris, en passe d'être vendue. L'homme d'affaires Jackie Lorenzetti, qui l'a construite, va la céder au géant américain du divertissement Live Nation, producteur des concerts de nombreuses stars internationales. À Strasbourg, les supporters du club de football, le Racing, ne décolèrent pas. Leur club se fait tout simplement piquer son entraîneur en pleine saison. L'anglais Ryan Rossignol, en pleine réussite pourtant en Alsace, va quitter Strasbourg cette semaine pour rejoindre Chelsea, car les deux clubs appartiennent en fait au même propriétaire américain et les Anglais passent visiblement avant les Alsaciens. L'entraîneur strasbourgeois s'en est expliqué ce matin lors d'une conférence de presse, Jean-Pierre Blimeau.
Comme de nombreux clubs dans le monde, le Racing de Strasbourg appartient à un groupe qui le gère dans un contexte de multipropriété. La pratique s'est tellement répandue que les supporters les plus attachés à l'identité de leurs équipes ont vivement affiché leur réprobation. C'était déjà le cas en septembre à Strasbourg avec le départ annoncé de l'attaquant Emmanuel Emega vers Chelsea. Justement ce matin, lors d'une conférence de presse qu'il a lui-même voulu, l'entraîneur anglais de 41 ans a indiqué que son transfert n'était pas le signe que Chelsea pouvait se servir à sa guise au Racing Club de Strasbourg, comme s'il s'agissait d'un simple vassal qu'on ne respectait pas. Liam Rossignol.
I think it's the opposite.
Je pense que c'est tout le contraire, pour être honnête. Je pense que cela montre un immense respect, pas pour le travail que j'ai accompli, mais pour celui accompli par le club. Chelsea est l'un des plus grands clubs au monde. Ils pourraient choisir n'importe quel entraîneur. En dehors du PSG en France, si Chelsea veut un entraîneur, il voudra probablement prendre le poste. Cela montre le chemin parcouru par Strasbourg en peu de temps sous la houlette de Marc Keller. Et cela montre que ce club de football a de l'ambition. Pour moi, c'est donc une marque de respect énorme.
Le Racing Club de Strasbourg va devoir trouver un nouvel entraîneur. Et parmi les noms qui circulent, figurent justement deux Anglais.
Jean-Pierre Blimeau, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, comment soigner les grands brûlés, ceux de l'incendie de Grand Montana notamment. Certains sont pris en charge en France, à Metz notamment. Nous en parlons avec nos invités, avec vous, 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton dans le Doubs, dans cette commune où la même famille fournit les maires depuis plus de 200 ans maintenant. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de la Landschale dans le Maine-et-Loire à Creil dans l'Oise en passant par Beaugency dans le Loiret, je vous raconte comment des communes s'amusent avec les réseaux sociaux ou changent des règles à la veille des élections.
Et avec vous Frédéric, une écrivaine.
Vanessa Springora, dont le premier livre Le Consentement avait fait grand bruit. Son deuxième roman a pour titre Patronyme, il est sorti chez Grasset. Et avec elle, c'est la voix de Patti Smith que nous écouterons. Patti Smith reprenant un tube de Nirvana.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Madeleine avant l'aube, le grand roman de Sandrine Collette. Dans un hameau à l'abri du temps, des familles travaillent une terre ingrate qui ne leur appartient pas. Ils endurent l'injustice en serrant les dents. Jusqu'au jour où surgit une fillette sauvage et révoltée. Madeleine avant l'aube, de Sandrine Collette. Prix Goncourt des lycéens 2024, enfin au livre de poche.
Retrouve-toi avec tes amis grâce à l'abonnement Basic Fit Ultimate. Rejoins le club où tu te retrouves dès aujourd'hui et profite de 5 semaines offertes. Promotion valable du 29 décembre 2025 au 5 février 2026 inclus. Voir conditions sur basicfit.fr.
France Télévisions, ce soir. 13 candidats, un seul vainqueur, une seule règle.
Ne jamais sortir de l'anneau.
Pour gagner, ils vont braver la montagne et défier l'anneau. L'anneau, qui en sortira vainqueur ? Votre nouveau jeu d'aventure, présenté par Laurent Luya, ce soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2.
Nous sommes de sœurs jumelles.
France Inter, partenaire du spectacle Les Demoiselles de Rochefort au Théâtre du Lido. Tout le monde connaît ces demoiselles qui chantent, dansent et rêvent d'amour et d'ailleurs. Retrouvez sur scène toute la magie du film culte de Jacques Demy et les mélodies inoubliables de Michel Legrand. Un spectacle musical joyeux, coloré, pour tous les amoureux de comédie musicale. Les Demoiselles de Rochefort. Prolongation jusqu'en juin 2026 au Théâtre du Lido. Un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
La journée donc marquée par un froid polaire.
Et un front froid qui arrive de Scandinavie et qui descend jusqu'au Maroc. En traversant la France, il touche essentiellement les régions situées entre le nord-est, le massif central et les Alpes. Les températures y affichent un déficit marqué de l'ordre de 8 à 10 degrés en dessous des normales de saison. Les valeurs resteront donc aujourd'hui proches de 0 degré ou légèrement négatives jusqu'à demain, voire moins 10, moins 12 degrés dans les campagnes sur les sols enneigés. Il fera moins 3 degrés à Saint-Étienne, moins 1 à Besançon et Font-Romeu, 0 à Dijon, Strasbourg et Vesoul. Partout ailleurs, le thermomètre affiche des valeurs positives, 2 à 7 degrés sur la moitié sud, 6 à 10 en Bretagne, qui profite d'un joli redoux pour la journée, et puis toujours une belle douceur hivernale en bord de Méditerranée avec 8 à 13 degrés.
Il ne neige plus, mais la neige n'a pas dit son dernier mot.
Non, la perturbation neigeuse qui a traversé la moitié nord-ouest, elle s'évacue effectivement aujourd'hui progressivement par la côte aquitaine. Elle a été très active dans le centre-ouest, donnant jusqu'à une vingtaine de centimètres en Charente-Maritime. Mais avec le froid glacial, donc attention, le gel se maintient. Si une accalmie est donc observée aujourd'hui, une offensive neigeuse de plus grande ampleur concernera demain les deux tiers de la France, à l'exception des régions les plus à l'ouest et au sud.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
40 morts, 116 blessés, dont 83 toujours hospitalisés. Voilà le dernier bilan de l'incendie du bar Le Constellation à Grand Montana en Suisse dans la nuit du Nouvel An. Et parmi ces blessés, beaucoup ont été brûlés, gravement brûlés et admis dans des services spécialisés en Suisse, mais aussi en France. Nous allons parler ensemble dans les prochaines minutes de la prise en charge de ces patients de cette médecine très particulière avec l'un de nos meilleurs spécialistes, docteur Boris Glavnik. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes à l'hôpital Mercy de Metz en Lorraine, chef du service des brûlés, anesthésiste, réanimateur. Vous accueillez près de 200 patients par an, des personnes dont les brûlures couvrent au moins 20% de la surface du corps, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Donc le patient grand brûlé, on le définit quand la surface cutanée brûlée est supérieure à 20%.
Des accidents domestiques, de la route, d'où viennent ces patients ? Généralement, au-delà du cas particulier qui nous intéresse.
Alors, généralement, c'est les patients qui viennent chez nous sont victimes donc d'accidents domestiques dans la plupart des cas. Les victimes d'incendies, on va dire, intérieurs, donc tout ce qui est incendie de domicile ou en lieu confiné, sont de plus en plus rares avec les mesures de prévention. Mais classiquement, ce sont voilà, des accidents domestiques et des accidents du travail qui touchent l'adulte jeune.
Trois des brûlés de l'incendie de Crans-Montana sont soignés en ce moment dans votre service. En ligne avec nous également, Julie Bourges, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes influenceuse, vous êtes connue sous le nom de 12 février, car à l'âge de 16 ans, c'était en 2013, le 12 février précisément, vous avez été brûlée sur 40% de votre corps. Depuis, vous témoignez sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement, vous partagez votre expérience pour les victimes de brûlures graves. Vous êtes suivie par 1 million de personnes. On va voir à quel point c'est important aussi de pouvoir trouver du soutien, et c'est pourquoi vous vous êtes lancée dans cette cause, Julie Bourges. 01 45 24 7000 pour vous qui nous écoutez et qui souhaitez intervenir et poser vos questions. Julie Bourges, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter ce qui vous est arrivé en 2013?
Oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir. C'est très important pour moi de libérer ma voix et de pouvoir me sentir utile, surtout, à propos de ce qui s'est passé à Crans-Montana. Donc, moi, effectivement, je suis brûlée sur 40% du corps depuis que j'ai 16 ans. Donc, ça va faire 13 ans cette année. C'était un costume de carnaval que j'avais fait à la main qui a pris feu sur moi.
Brûlée voilà. Au donc, corps, brûlée au visage, brûlée sur les membres?
Oui, brûlé du cou jusqu'en bas des jambes, à peu près, sur certaines parties, du dos notamment, les bras. Voilà. Et du coup, j'ai fait 3 mois de coma artificiel après cet accident.
On va parler de votre long parcours, Julie, dans un instant, également avec le docteur Boris Gravnik. Juste un mot, parce que vous étiez en Suisse au moment de cet incendie à Crans-Montana, pas à Crans-Montana, mais dans le pays, vous étiez... pas très loin, est-ce que ça a changé votre perception des choses? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les images, quand vous avez écouté les témoignages?
Alors, j'y étais pas spécifiquement au moment de l'accident, mais par contre, c'était prévu depuis des mois que j'y sois 2 jours après. Donc, je crois pas forcément au hasard. Je me dis qu'il y a peut-être une part de destinée d'essayer d'apporter un peu de lumière dans ce moment qui est aussi sombre. Et évidemment, ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Après, je suis pas là pour parler de moi spécifiquement, mais plutôt de l'après, pour leur dire qu'il y a un après, pour dire qu'il y a un après. Mais en tout cas, effectivement, ça réveille des choses parce que c'est un accident qui arrive dans un moment qui est censé être festif, avec des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans. Et donc, forcément, il y a des liens avec ce que moi j'ai vécu lors du carnaval de mon lycée, évidemment.
L'après immédiat, c'est en ce moment, 5 jours après le drame. Boris Glavnik, vous qui prenez en charge les patients brûlés, en tout cas 3 d'entre eux à Metz. Julie a été brûlée en milieu ouvert, c'est ça, hein, Julie?
Oui, absolument.
Boris Glavnik, là, ça s'est produit en milieu fermé. Est-ce que les conséquences sont différentes?
Oui, les conséquences sont différentes car les patients vont inhaler beaucoup de fumée du fait de l'accident en milieu clos, ce qui peut gréver leur pronostic sur le plan respiratoire et compliquer donc leur séjour en réanimation.
Qu'est-ce que vous faites dans les premières heures?
Donc, dans les premières heures, on va tout d'abord donc réaliser un premier pansement pour nettoyer les brûlures, effectuer des premiers gestes d'urgence si les brûlures sont profondes et faire un pansement occlusif et propre pour limiter le risque infectieux.
Dans quel état sont les patients? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont endormis?
Alors, les pansements sont toujours réalisés donc chez le patient grand brûlé sous anesthésie générale car leur geste est beaucoup trop douloureux.
Donc, ce sont des pansements au départ. Est-ce qu'il y a des opérations qui interviennent ou des greffes et à quelle échéance?
Alors, pour les pansements ont lieu toutes les 24 ou 48 heures, donc dans les premiers jours. Puis, il peut y avoir des premiers blocs donc chirurgicaux qui sont effectués par les chirurgiens plasticiens. Sur les brûlures profondes qui ne cicatriseront pas, les excisions greffes sont réalisées dès la première semaine si possible. Puis, au fil de l'hospitalisation du patient, donc il y aura des séances d'excision greffe au cours des 15 jours et 3 premières semaines.
Excision greffe, est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur Boris Glavnik, en quoi ça consiste?
Alors, le chirurgien va venir retirer, donc on va dire, la peau brûlée, d'accord, qui ne peut pas cicatriser, et sur la lésion qui a été enlevée, il va prélever de la peau saine qui n'a pas été brûlée chez le patient et la greffer donc sur cette lésion qui a été enlevée.
La difficulté, c'est que la greffe opère ou ça fonctionne tout le temps?
Alors non, il peut y avoir ce qu'on appelle un rejet de greffe. Il faut attendre plusieurs jours avant d'être sûr que la greffe est prise et cicatrise correctement.
Je suppose qu'il y a un risque aussi d'infection pour ce type de patient important?
Exactement. Le risque infectieux est augmenté chez le patient brûlé, d'où la réalisation régulière de pansements afin de garder les lésions au plus propre possible.
Ça demande une hygiène particulière dans les chambres pour le personnel ?
Alors nous sommes considérés comme des secteurs protégés avec des ventilations spécifiques. Le personnel donc a des habits, on va dire, spécifiques, car le patient grand brûlé est considéré comme un patient immunodéprimé. Mmh.
Julie Bourges, vous vous souvenez de ces quelques jours qui ont suivi ce qui vous est arrivé en 2013 lorsque vous avez été gravement brûlé ?
Alors, j'ai pas perdu connaissance lors de l'accident, donc je me souviens de ce qui s'est passé. Mon dernier souvenir réel, si je peux dire, c'est vraiment ce masque qui se pose sur mon visage dans le camion des pompiers. Je me réveille 3 mois plus tard de ce coma artificiel. Après, pour moi, ce qui est essentiel de rappeler aujourd'hui, c'est que j'ai des souvenirs de ce coma artificiel. J'entendais des fois mes parents, donc rappeler que des familles de victimes ou amis de victimes, s'ils ont des personnes qui sont actuellement dans le coma artificiel, il faut leur parler absolument. Il faut être là, il faut leur tenir la main et leur dire qu'on est présent, simplement. Après, non, j'ai pas de souvenir de toutes ces opérations parce que j'étais dans un coma artificiel.
Mais vous avez quand même le sentiment, pardonnez-moi, que pendant ces 3 mois, avoir eu des gens, vos proches à côté de vous, ça vous a aidé?
Oui, après, alors on peut parler un petit peu plus spirituellement, si je peux dire, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression dans le coma que c'était un choix de ma part que de partir ou de rester, sincèrement. Le pronostic vital était engagé pendant 3 mois, et oui, bien sûr, il y a des flashs, on se rappelle de certaines choses, et c'est essentiel que d'avoir de la visite, je crois, à ce moment-là.
Est-ce que vous avez mal quand vous vous réveillez au bout de 3 mois? La douleur.
Alors, on a plein d'antidouleurs, évidemment. Ouais. Le chirurgien pourra le confirmer, le docteur pourra le confirmer. Mais la douleur, oui, la douleur est intense. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a d'abord le combat de survivre aux flammes, et puis il y a l'après. Et l'après fait aussi référence à toute cette douleur, cet aspect cicatriciel. Il faut imaginer que tout le corps cicatrise. Il reste encore des anesthésies générales s'il y a encore des opérations. Donc, c'est aussi lourd pour le corps et ça laisse des séquelles qui sont longues.
Boris Glavnik, comment est-ce qu'on fait diminuer la douleur ?
Alors le patient brûlé est un patient douloureux chronique. Donc il vivra longtemps avec ses douleurs qui ont plusieurs composantes.
Longtemps, ça veut dire quoi ?
Plusieurs mois, plusieurs années.
Ouais.
Donc on utilise plusieurs sortes, plusieurs classes de médicaments différentes afin de prendre en charge au mieux les douleurs chroniques.
Donc des antidouleurs traditionnel, si je puis dire.
C'est du traditionnel, ouais. Type paracétamol. Il peut y avoir des morphiniques, il peut y avoir aussi des traitements contre les douleurs, ce qu'on appelle neuropathiques, qui font vraiment les douleurs de fond de la douleur chronique.
Julie a été brûlée à 40%. Elle a été soignée, elle témoigne aujourd'hui. Docteur Glavnik, quelle est la limite de ce qu'on sait faire aujourd'hui ? Jusqu'à quel pourcentage du corps s'est-on soigné ?
On sait soigner maintenant en France, on a déjà pris en charge des patients brûlés jusqu'à 90%.
Pardonnez-moi, je vous ai mal entendu, docteur.
On arrive maintenant à soigner en France des patients qui ont été brûlés jusqu'à 90% avec des traitements exceptionnels.
Jusqu'à 90%, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années.
Alors il y a eu beaucoup de progrès sur le plan expérimental grâce donc à la culture de peau in vitro, prélevé donc directement sur le patient victime, et également sur des traitements, on va dire, expérimentaux avec des cellules souches.
Il y a aussi, je suppose, des innovations autour des outils que vous utilisez, des bandages, mais aussi des vêtements. Il y a des vêtements spéciaux pour les personnes qui ont souffert de très graves brûlures.
Alors c'est ça, tout à fait. Le patient, dans sa rééducation, donc porter des vêtements, ce qu'on appelle des vêtements compressifs, qui vont servir à ce que la cicatrice évolue au mieux possible. Car la cicatrisation va soit s'hypertrophier, soit se rétracter sur les 2 premières années après la brûlure. Donc le patient va porter presque 24 heures sur 24, donc des vêtements compressifs, pour essayer de lisser ses cicatrices, en fait.
Donc des vêtements qui sont très près du corps, c'est ça ?
Des vêtements compressifs, comme un peu des manchons de compression ou des bas de contention qu'on met en gilet, qu'on met sur les zones qui ont été brûlées.
D'accord, donc ça serre en fait, c'est ça, hein, ça serre la peau.
Exactement, ça comprime pour éviter une cicatrisation anarchique.
Plusieurs questions pour vous, docteur Mireille de Bretagne, qui nous appelle et qui nous dit: que faut-il faire en attendant les secours après une grave brûlure ?
Alors, en dessous de 20%, on considère qu'il faut refroidir les brûlures, donc se mettre sous l'eau sanitaire à 15 degrés durant 15 minutes.
Sous l'eau froide pendant 15 minutes.
C'est ça.
Question de Fabienne d'Auvergne. Utilise-t-on des cataplastes d'argile verte?
Non, dans notre centre, on n'utilise pas et ce n'est pas recommandé chez le patient grand poulet.
Non plus, merci pour cette réponse précise. Il y a évidemment des conséquences physiques et on l'entend et on l'imagine. Il y a aussi des conséquences psychologiques. Julie Bourge, vous avez été suivie de ce point de vue-là, vous l'êtes toujours aujourd'hui?
Alors, à pas reproduire, peut-être pas. En tout cas, j'ai trouvé mes thérapies ailleurs. Quand je suis sortie de l'hôpital, je pensais les avoir trouvées ailleurs. Donc, j'ai très vite voulu reprendre une vie, entre parenthèses, normale, même si elle ne l'a plus jamais été, évidemment. J'ai souhaité retourner au lycée très rapidement, retrouver mes amis rapidement, reprendre le sport dans la mesure du possible rapidement aussi, parce que j'étais gymnaste, et ça m'a d'ailleurs beaucoup aidée dans ma reconstruction. Pendant 12 ans, ça allait, j'ai enchaîné, j'ai parlé en fait de tout ce qui m'était arrivé et je pensais que d'en parler traiterait le fond de ce qui m'était arrivé. Et il y a un an à peine, donc quasiment en fait 10 ans après ce qui m'était arrivé, j'ai compris que j'avais jamais traité réellement le fond. Alors je l'avais traité à l'hôpital parce qu'évidemment on est suivi quand on se réveille. Moi j'étais suivie psychologiquement et psychiatriquement. Et puis à la sortie, je pensais que ça irait. Et puis voilà, c'est remonté 10 ans plus tard. Donc je pense que s'il y a un des meilleurs conseils à donner maintenant, c'est de parler déjà.
Donc vous êtes là toujours en thérapie? Julie Bourge.
Oui, absolument, ouais. Et ça me fait le plus grand bien, je vous cache.
Merci d'avoir été avec nous, on vous suit sur vos comptes, 12 février. Merci Julie Bourge. Un dernier mot, docteur Boris Glavnik, ces grands brûlés sont pris en charge à 100% ou est-ce qu'il faut qu'ils payent?
Non, la prise en charge, les patients bénéficient tous d'une prise en charge à 100%.
Prise en charge à 100%. Merci d'avoir été avec nous tous les deux, notamment docteur Boris Glavnik. J'ai déjà salué Julie Bourge, docteur Boris Glavnik, donc à l'hôpital de Metz, l'hôpital Mercy, qui accueille en ce moment 3 des patients victimes de l'incendie à Crans-Montana il y a quelques jours, 13h45 sur Inter. L'heure de notre feuilleton, nous passons toute cette semaine à Blussan dans le Doubs, commune de moins de 200 habitants. On y est maire de père en fils depuis 1818, quasiment sans interruption. Ainsi, Marc-André Daudiver a succédé en 2020 à son père et il va se représenter dans 2 mois. Nous le retrouvons avec Jérôme Val, notre journaliste. Ils sont dans la salle du conseil.
C'est donc la mairie avec le secrétariat.
Et la salle du conseil municipal.
C'est ça. Hein, donc c'est ici qu'on se réunit environ tous les mois, tous les mois et demi.
On est assis donc à la table du conseil municipal. Combien de conseils municipaux vous avez autour de vous?
Donc au départ, nous étions 11 et maintenant nous sommes plus que 10. Donc suite à une démission pour un déménagement. C'est pas par devoir, c'est l'envie de m'engager donc pour mon village comme l'avaient fait mes ancêtres auparavant.
Alors on n'est pas maire de Blussan, j'imagine, à temps plein. Comment vous organisez votre vie à côté, professionnelle, et cette vie de premier magistrat de Blussan?
Voilà, c'était un petit peu donc ce qui me freinait pour prendre la direction de la commune, c'est de concilier donc la vie professionnelle et puis donc cette tâche de maire qui est très importante.
Vous travaillez dans quoi?
Donc je suis conseiller numérique à la Poste, donc à Belfort. Hein, donc ça prend à peu près 1h30 par jour aller-retour donc de déplacement. Et donc c'est ça qui est un peu le plus difficile à gérer. Je commence ma journée en général vers 7h30. Hein, donc il y a la lecture des mails, il y a toutes ces, on va dire, les formalités administratives. Et puis après, donc, c'est le départ au travail. Et puis en fin de journée, donc, là, je m'occupe aussi de la mairie. Toutes les demandes de permis de construire, mais aussi les demandes de travaux. Dès que vous faites des travaux, vous êtes obligé de déposer un dossier. Hein, et puis donc, nous, on a un rôle plutôt consultatif. On n'a pas de carte communale et on n'a pas de plan local d'urbanisme. Hein, donc on est obligé de demander l'avis donc au service du département pour valider un dossier.
Vous avez l'impression que c'est plus lourd au fil des années, le travail entre guillemets de maire?
Bon, ce qui est le plus lourd, c'est les mails en fait. Moi j'ai la chance d'avoir ma secrétaire qui filtre énormément et puis qui me diffuse vraiment les mails essentiels. Et après, c'est vrai qu'on a de plus en plus de formalités administratives, hein, et c'est ça qui est un petit peu pesant. On se sent un petit peu seul, on va dire, quand il y a déjà besoin de monter des dossiers, même si on a des bons relationnels avec les services de l'État, on se trouve un petit peu démuni parfois, donc on est obligé d'aller chercher nous-mêmes les informations.
Je vois plein de casiers derrière vous, j'en profite, c'est tout ce qui vous attend en tant que maire de la commune.
Et vous voyez, il y a beaucoup de choses à connaître, et puis après, c'est vrai qu'il faut essayer d'être assez rigoureux quand on classe tout ça, parce que quand on a besoin de rechercher quelque chose, C'est pas toujours évident.
Ça va de la signalétique aux fleurs. Je vois quoi J'ai vu chien méchant, c'est ça? Non, chien dangereux.
Voilà, ça fait partie de la vie d'une commune. Hein. Toutes les nuisances qu'il peut avoir avec les animaux, les nuisances de les bruits.
Et est-ce que vous avez un peu le temps quand même pour les loisirs de la vie à côté?
Oui, heureusement, il y a les week-ends. Bon, je suis pas mal pris avec le football. Je suis éducateur et je suis dirigeant donc au football club Saint-Maurice Blussan.
Ce club de foot, c'est important d'avoir ce lieu de vie aussi pour une commune comme la vôtre?
Oui, c'est très important. En plus, donc, le club avait été initié par des gens du village. C'est vrai que ça donne un lien important entre les jeunes des différents villages. Alors, il y a trois équipes seniors masculines, une équipe senior féminine, et après, on a toutes les équipes dans les catégories de jeunes. Donc, oui, j'arrive à concilier après avec la vie de famille. Donc, pour le moment, ça va.
Deuxième épisode de notre feuilleton. Je vous rappelle que nous serons avec le 13-14 en direct de Luis, dans le département de l'Ain, jeudi, pour une émission en public consacrée au municipal, installée dans la salle des fêtes de la commune. Vous êtes évidemment les bienvenus dans la limite des places disponibles.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le mardi 13h50, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Aujourd'hui, Cyril, petites histoires de réseaux sociaux.
Et je vous emmène, Jérôme, à La Lanchale, dans le Maine-et-Loire, un village de 119 habitants, champion de France des réseaux sociaux. La commune vient à nouveau d'être sacrée collectivité la plus performante sur Instagram et sur TikTok, indique le Courrier de l'Ouest. Ce classement établi par l'Observatoire de la com publique numérique prend en compte le nombre d'abonnés rapportés à la population, la quantité de messages et leur portée. Les mentions j'aime, avec 10 fois plus de followers Instagram que d'habitants, La Lanchale précède la communauté d'agglomération de Bastia et la ville de Châteauroux. Paris est 6e, Marseille 9e.
Quelle est la recette de leur succès?
Eh bien, c'est un travail de longue haleine, m'a confié le maire Jean-Christophe Rouxel, qui ne rate pas, je le cite, une occasion de buzzer. Alors, le buzz fondateur date de 2017. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, la commune décide de dévier l'accès à son unique bureau de vote. Objectif, ne pas gêner 5 bébés mésanges qui nichent dans la boîte aux lettres située sur la porte principale.
À quoi ça tient le succès sur les réseaux sociaux quand même effet.
Et ça tient aussi à une dépêche de l'agence France Presse qui avait permis à l'info de faire le tour du pays.
Là, c'est le blason du village dans un autre buzz qui a fait le tour du monde.
Le 21 mars 2025, le défi lancé par le maire 2 ans plus tôt a été réussi. Il s'agissait d'obtenir une photo des armoiries du village dans chaque pays du monde. Dernière obtenue, la Corée du Nord. Au total, plus de 4600 clichés ont été partagés. Le diplôme du Guinness des records est attendu et le maire espère l'autorisation de la NASA pour que l'astronaute Sophie Adnaud emporte le blason de La Lanchale dans la station spatiale internationale. Les habitants sont fiers qu'on parle de leur village, résume le maire, qui publie plus vite que son ombre, mais seulement des infos positives ou pratiques. Depuis hier, on y voit de jolies images de neige et l'annonce de la suspension du transport scolaire.
Et ces pages communales sont donc très utiles aux habitants.
Facebook, surtout, le réseau préféré des mairies. Selon le baromètre déjà cité, la commune qui est la plus performante sur Facebook donc est Creil dans l'Oise, avec 16 000 abonnés pour 36 000 habitants. Hier, les habitants ont pu lire plusieurs alertes météo et la fermeture exceptionnelle de la piscine.
Mais à 2 mois des élections, plusieurs communes changent les règles de leur page Facebook.
Elles ont décidé depuis le début de la période préélectorale, le 1er septembre, de fermer temporairement les commentaires sous les publications. C'est le cas de Vergès dans le Gard, de Chabeuil dans la Drôme, de Beaugency dans le Loiret et de beaucoup d'autres. Rien ne les oblige juridiquement à cette décision, mais elle permet d'éviter messages haineux, propagande ou invective auxquels les maires candidats ne pourraient pas répondre, devoir de réserve oblige.
Il y en a même qui ont quitté les réseaux.
Et ils feront campagne municipale sans, comme les maires de Lambersart, de Rinxant ou de Zegerskapel dans les Hauts-de-France, nous apprend La Voix du Nord. L'un parle de poison pour la démocratie, l'autre est fatigué des menaces et insultes ou du fait que beaucoup donnent leur avis sur tout sans rien y connaître. Le troisième conclut, les gens votent pour un bilan. Pas parce qu'on a fait 200 likes sur une page. Alors, à l'opposé, l'ex-maire de Rabastens, dans le Tarn, a créé le tuto des municipales, une page Facebook où il filme ses conseils aux candidats, dont celui-ci, repéré par le Parisien. Allez voir tous les habitants de votre commune, sous-entendu, allez les voir en vrai.
Ouais, enfin, c'est plus facile à dire à La Lanchale, 119 habitants, qu'à Marseille, par
évidemment,
exemple.
Évidemment.
Ou à Lyon, ça prendrait un tout petit peu plus de temps. Merci Cyril Petit de C'est la France, sous l'œil amusé de Frédéric Pommier. Ah, c'est une chanson, Frédéric, c'est l'éditrice et romancière Vanessa Springora que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro.
Vanessa Springora, autrice notamment du Consentement,
qui participera cette semaine au festival Paris des Femmes, lequel va se tenir au Théâtre de la Pépinière. Et c'est la voix de Patti Smith qu'elle a souhaité que l'on écoute. Patti Smith reprenant un morceau de Kurt Cobain, le leader de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, un tube sorti en 1991 sur le deuxième album du groupe.
Pour moi, c'est le moment de, à la fois la chute du mur de Berlin, les années SIDA, c'est rentrer dans l'âge adulte au moment où le monde s'effondre, avec cette musique qui arrive comme ça, de rébellion, de rage, de révolte, mais avec un son très particulier, très électrifié, une espèce de son brut, très dur, qui est presque quelque chose qui est aussi violent que l'époque l'est. Et moi, je crois que j'ai pas été si sensible que ça à ce morceau à l'époque où il est sorti, même si c'était impossible de pas l'entendre, puisqu'il était partout. C'était le tube de ma jeunesse. Je crois que j'avais 19 ans quand il est sorti. Et en fait, c'est un morceau que j'ai redécouvert grâce à Patti Smith, grâce à cette relecture. Et tout d'un coup, j'ai compris que ce morceau était magnifique, mais vraiment dans la version la plus dépouillée qu'en a faite Patti Smith.
Build up on guns. Bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard. Myself assured. I know a dirty.
Frédéric est sorti cette version de Smells Like Teen Spirit.
Elle est sortie sur 12, un album de reprise. Et Vanessa Springora aime tout dans l'interprétation de Patti Smith.
Elle gomme pas la gravité ou l'intensité du morceau, mais elle en fait quelque chose de beaucoup plus sobre, dépouillé. C'est presque une berceuse un peu hypnotique, comme ça. Et ça devient quelque chose qui est presque consolateur, tout aussi désenchanté, mais on peut vivre avec. Et c'est ce qu'elle a fait, parce que c'est une femme de 61 ans qui revisite un morceau écrit par un jeune homme qui est mort à 27 ans dans les années 90. Et je trouve que déjà, cette façon qu'elle a de rendre hommage à un jeune homme qui pourrait être son fils, finalement, c'est aussi une manière de dire, quand un morceau est grand, il appartient à toutes les générations. Et finalement, cette révolte qui s'exprime dans ce morceau, c'est celle de sa jeunesse à elle aussi, et c'est celle de toutes les jeunesses à toutes les époques.
Vous, dans votre jeunesse, vous étiez particulièrement révoltée?
Oui, je crois que j'étais très rebelle quand j'étais adolescente, mais j'étais très peu sûre de moi aussi, et c'est l'autre dimension des paroles de la chanson qui me touche énormément. Il dit « je suis contagieux, je suis toxique, je suis stupide, je me sens nulle ». Pour moi, ça renvoie à ce moment où on se met en danger, cet âge un peu charnière comme ça, l'adolescence, où on va tester les limites, mais évidemment tout ça est un jeu. Et il y a beaucoup de fragilité, de vulnérabilité qui se cache derrière les apparences.
Quand vous découvrez cette version de Patti Smith, on est en 2007, qu'est-ce qu'elle nous dit de ce que vous êtes, vous, à ce moment-là de votre vie ?
Ce que j'aime dans cette version de Patti Smith, c'est qu'elle revisite quelque chose qui est un cri de rage, de façon beaucoup plus apaisée, et elle me dit qu'on peut se réconcilier avec une adolescence difficile.
Vous, vous avez commencé à vous réconcilier avec votre adolescence à partir de quel âge ?
Peut-être à partir de la trentaine. C'est à peu près à ce moment-là d'ailleurs, enfin c'est pas forcément lié. Mais je pense que c'est d'abord le travail sur moi, le travail psychanalytique qui m'a énormément aidée, qui m'a même sauvée. Puis les rencontres qu'on fait en fait, qui peuvent aussi vous réconcilier avec l'humanité. La rencontre de l'homme que j'aime, avec lequel je vis, qui est le père de mon enfant, qui a été déterminante pour changer complètement de regard sur le monde, mais sur moi y compris, et qui m'a permis de m'autoriser à être heureuse.
Aujourd'hui, vous l'êtes ?
Oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai la chance de faire enfin ce que j'aime, d'écrire. Là, je suis en bonne santé, j'aime et je suis aimée. Je pense que c'est le principal.
Patti Smith, sa reprise de Smells Like Teen Spirit. C'était donc, Frédéric, le choix de Vanessa Springora.
Vanessa Springora, que vous pourrez retrouver au festival Paris des Femmes, dont la 12e édition se déroulera de jeudi à samedi au Théâtre de la Pépinière. Quant à son dernier livre, patronyme. Il est publié chez Grasset.
Merci Frédéric et à demain.